RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Après avoir parlé, vous l'avez entendu, d'une exposition qui montre l'impact des humains sur la Terre, on va essayer de voir jusqu'à 11h comment participer à l'invention de la ville écologique de demain, à l'aide de nos deux invités et bien sûr à l'aide de vos témoignages. À quoi pourrait ressembler la ville du futur d'après vous? Est-ce que vous connaissez des associations qui permettent d'imaginer cette ville de demain à travers des échanges, des ateliers ou même des débats? On vous attend au 04 72 38 20 23 et c'est toujours Catherine qui réceptionne tous vos appels. Vos messages également par courriel à l'adresse direct@rcf.fr. Et enfin, dans notre groupe Facebook, Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense, donc j'agis sur RCF.
Et pour nous accompagner pendant une heure, j'ai plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Sébastien Maire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes le délégué général de France Ville Durable, une association qui valorise, entre autres, bien sûr, les actions menées sur les territoires pour fonder les villes éco-responsables à la fois d'aujourd'hui et de demain. C'est ça qui est intéressant. Vous allez nous préciser tout ça dans un instant. Avec nous également Jean-Bernard Dufrien. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF. Vous êtes administrateur pour l'association Robin des Villes. Alors vous, c'est une association plutôt pour les habitants, pour que les habitants construisent un petit peu la ville de demain.
Tout à fait, ouais. On est une association d'éducation populaire avec, je dirais, on milite pour une ville partagée, accessible à toutes et à tous, avec un mot d'ordre générique qui est la participation avec tous les acteurs, les habitants, mais aussi les usagers, les acteurs qui construisent la ville.
Avec notamment beaucoup d'ateliers, je crois, que vous organisez normalement, sans parler du Covid, bien sûr, mais ça fait partie vraiment du cœur de l'association, les rencontres, voilà, vraiment pour favoriser l'échange.
Oui, on va même plus loin, on travaille avec toutes sortes de publics, hein, aussi bien des habitants, dans, par exemple, des quartiers en rénovation, auxquels on est missionné pour que les habitants puissent avoir leur mot à dire, mais aussi, notamment, avec les jeunes publics, dans des écoles, alors soit sur des ateliers qui auraient pour objet la ville, mais aussi sur des choses beaucoup plus pratiques pour les enfants, pour les écoles primaires et bientôt les collèges. C'est la réflexion des cours d'école, qui est un formidable enjeu de territoire,
oui.
Mais aussi bien pour les enfants que pour la ville.
Oui.
Et là, pareil, on est sous forme d'ateliers, de jeux, on fait participer les enfants à l'élaboration de leur futur cours d'école. Voilà, pour donner quelques exemples.
Voilà, donc trois volets, écologique, politique et éducatif. Vous allez nous préciser, bien sûr, tout ça dans cette émission. Je le disais, Sébastien Maire, vous êtes de votre côté délégué général de France Ville Durable. Alors là aussi, hein, les présentations s'imposent. J'ai donné quelques bribes d'informations dans mon introduction. C'est une association, le rôle principal, alors bien sûr, vous faites beaucoup de choses, c'est de valoriser des actions, ça c'est sûr. Entre autres.
Oui, alors on pourrait même dire que le rôle principal, c'est de repérer, valoriser et rediffuser le plus largement possible les meilleures pratiques, outils, méthodes, solutions qui permettent d'accélérer les démarches de transformation des territoires, des villes. Parce qu'aujourd'hui, le mot transition n'est peut-être même plus suffisant par rapport aux enjeux et par rapport à ce qu'il faut faire. Et donc on est bien dans des logiques de transformation de nos villes et de nos territoires, et l'association France Ville Durable vise à accompagner les acteurs territoriaux publics et privés dans ces transformations. C'est une association qui est composée de quatre grandes catégories d'acteurs, une association des parties prenantes professionnelles de la ville durable. L'État, qui a été à l'origine, à la création de l'association, donc à travers le ministère de la Transition écologique, le ministère des collectivités locales, et tout un tas d'agences et d'opérateurs de l'État, qui apporte des dispositifs, des financements, des outils concrets pour la mise en œuvre de la transformation des villes. Les collectivités locales, et l'association est de droit présidée par un maire, c'est Patrice Vergritte, le maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, parce que l'association considère que si l'ensemble des acteurs du territoire doivent participer de la ville durable, il y a une catégorie qui a la légitimité pour conduire la transformation. Qui est l'élu local. L'élu local, il a la légitimité démocratique, la proximité avec les habitants, avec les acteurs économiques, pour engager cette démarche de transformation. Donc on a aussi des collectivités locales qui adhèrent en direct à l'association, et notamment l'Assemblée des communautés de France. Vous savez, cette association nationale qui regroupe la quasi-totalité des intercos de France, de la communauté de communes rurales à la grande métropole. Les entreprises sont présentes aussi dans l'association, les grands comptes, les grandes entreprises, comme des plus petites, qui travaillent dans les domaines, tous les domaines qui font la ville. Les transports, l'énergie, la construction, etc. Et puis un dernier collège très important qui est celui des experts, parce qu'aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la discussion, on a peut-être encore plus besoin qu'avant de s'appuyer sur l'expertise, la science, pour ne pas se tromper de direction quand on parle de ville durable et quand on transforme nos territoires. Parce qu'on a quand même fait pas mal d'erreurs depuis 20 ans. Aujourd'hui, on commence à mieux comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc les experts, les bureaux d'études techniques, les scientifiques, les chercheurs, les agences d'urbanisme sont absolument fondamentaux pour ne pas se tromper de direction dans les villes durables.
Jean-Bernard Dufrien, on est déjà en train de construire la ville du futur, la ville de demain.
Ah, je ne sais pas si on l'a construit, mais comme on le dit, on est confronté à des enjeux absolument importants. Et quand on évoque la ville du futur, effectivement, dans certaines écoles, on travaille avec les, notamment, hein, c'est toujours pareil pour donner un exemple, avec un jeu sous forme d'atelier séquencé pour qu'ils puissent imaginer leur ville de demain. On est sur une école là à Vaux-en-Velin à travailler à la ville 2050. Voilà. Qu'ils l'imaginent, comment ils peuvent se projeter, eux, en tant qu'enfants, au jour le jour, mais aussi se projeter quand ils seront un petit peu plus grands.
Alors, imaginer la ville de demain, c'est quand même très large, hein. Ça peut passer par plusieurs sujets, que ce soit l'urbanisme ou autre. L'écologie, c'est vraiment aussi important pour Robin des Villes, pour l'association.
Ah oui, bien sûr, hein, ça fait partie. Quand on parle de développement durable, on est bien d'accord qu'il y a tout l'aspect social. On ne pourra pas mettre de l'espace vert. Il nous faut des espaces verts pour la ville, pour juste citer un exemple, sans que les habitants, les acteurs, les usagers puissent s'en emparer et le faire vivre. Donc, à l'heure actuelle, il y a un coup d'accélération qui se fait, notamment sur végétaliser les villes, mais pour pas que ça soit plus agréable comme ça. C'est simplement parce qu'il y a une urgence face au réchauffement climatique, où les températures grimpent de manière assez dangereuse en ville. Ah oui. Et il faut utiliser tous les endroits. Alors, je parlais des cours d'école, notamment. Comment penser les cours d'école, les végétaliser, parce que c'est ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Et pour qu'on puisse faire face à ces défis qui nous attendent.
Donc ça fait partie aussi des missions de l'association Robin des Villes. Sébastien Maire, les collectivités locales ont conscience qu'il y a un vrai problème dans les villes du présent. Est-ce qu'elles ont conscience qu'il y a un gros travail à faire pour construire les villes de demain ?
Alors de plus en plus, oui. Néanmoins,
parce que je vous pose cette question, on disait dans la première partie que si vous avez peut-être écouté la fin de cette émission, on disait qu'il y avait quand même un aspect politique qui était très important, une prise de conscience politique pour ensuite pouvoir imaginer un nouveau projet, quoi.
Mais en fait, on a un décalage dans le temps chez les acteurs des collectivités locales comme chez les acteurs des entreprises ou dans la sphère privée. La prise de conscience très forte aujourd'hui dans les collectivités locales et chez les acteurs, elle est réelle, elle est forte, elle aurait dû intervenir il y a 20 ans. La prise de conscience d'aujourd'hui qui est peut-être qu'il va falloir faire autrement, qu'effectivement le dérèglement climatique est une réalité, que ça va complètement impacter, changer l'avenir, de la vision du futur qu'on pouvait avoir, tout le monde l'a compris. Et là on part dans des démarches souvent de développement durable qui sont celles qu'on aurait dû faire il y a 20 ou 30 ans. Pour garantir le fait que la chute, entre guillemets, le gap pour arriver à tenir, par exemple, les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, hein, qui c'est pas du militantisme, c'est des objectifs réglementaires, va être tellement important qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'en est plus au développement durable. Le développement durable, c'était ce qu'il fallait faire il y a 20 ans. Aujourd'hui, on en est dans une logique principalement d'adaptation. C'est-à-dire que, de toute façon, sur un certain nombre de phénomènes, il est trop tard. Et donc, la survie et la qualité de vie dans les villes va dépendre autant dans les années à venir et tout de suite, hein, dans l'urgence, de notre capacité bien sûr à réduire les émissions de carbone, nos consommations énergétiques, notre consommation tout court hein, et l'activité en général, mais aussi de nous adapter aux conséquences du fait qu'on l'a pas fait plus tôt. Et c'est le cas avec tout ce qu'a évoqué l'association Robin des Villes sur la question des îlots de fraîcheur, notamment, et de l'adaptation physique des villes, hein, pour qu'on, parce qu'on parle quand même d'ici 2040 et 2050 de canicules qui pourront durer un mois et atteindre 50 degrés. Hein. On n'est pas dans les canicules qu'on a connues jusque-là, donc l'impact
et qui sont déjà
sanitaire
qui sont déjà
est absolument
fort.
Monstrueux. Ouais. Et donc la logique d'adaptation, elle a fait son irruption récemment avec celle de résilience. Et vous l'évoquiez juste avant, la résilience, c'est en fait la vision plus globale. Hein. Mmh. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas que le climat. Il n'y a pas que le climat et l'environnement. Il y a aussi les enjeux économiques, les enjeux infrastructurels, organisationnels, sociaux, épidémiques, etc. etc. Mmh. Comment on arrive à concevoir l'avenir des villes en tenant compte de tout ça, et pas seulement du sujet du climat et du carbone, par exemple. Mais comment on a une vision plus holistique? En 2015, au moment de l'accord de Paris et de la COP21, qui a été le moment un peu grand public, où le grand public a découvert ce sujet climatique en France, en tout cas, les mots d'adaptation et de résilience étaient quasiment tabous, hein. C'est-à-dire, à l'époque, on était toujours dans le paradigme qui est non, on va bien sûr réussir à baisser drastiquement nos émissions de carbone, tout va bien, on n'a pas besoin de changer de vision du futur, on n'a pas besoin de changer d'économie, et puis 5 ans après, évidemment, bon, ça n'a pas marché. Et en 2019, il n'y a jamais eu autant d'émissions de carbone dans le monde, malgré l'accord de Paris. Donc aujourd'hui, cette logique d'adaptation, elle change la donne sur ce qu'on entend par le développement d'une ZAC, d'un projet immobilier, d'une stratégie de territoire. Et c'est là que France Ville Durable propose d'apporter des outils, des méthodes aux collectivités pour engager rapidement les transformations nécessaires.
Jean-Bernard Dufrien, vous voulez réagir ?
Oui, non, mais je voulais rebondir sur ce mot résilience, là, parce qu'on l'emploie beaucoup.
Oui.
Et je dirais, nous, la manière dont on s'empare de ce mot résilience, c'est que tout cela, on pourra le faire qu'avec les habitants, les usagers. Ça veut dire que s'il n'y a pas une sensibilisation, une éducation, une approche avec lesquelles les habitants vont pouvoir s'emparer à la fois de la ville, vraiment, et à la fois des enjeux, ça c'est plus compliqué à faire, à qu'on puisse le comprendre. Là, on pourra parler de résilience. La résilience, il faut que c'est une affaire humaine pour que la ville puisse être demain. Qu'on accepte certaines contraintes ou tout simplement aussi changer des habitudes. On ne va pas parler de contraintes, on va changer des habitudes qui vont vers normalement quelque chose de plus agréable, tout simplement.
Sébastien Maire.
Oui, je voulais aller exactement dans le même sens. Hein. La transformation nécessaire ne pourra fonctionner que si elle s'appuie sur les habitantes et les habitants. Donc tout le type de démarches de transformation urbaine qui ont été présentées tout à l'heure par l'association Robin des Villes. En gros, bah après, on a des mots techniques, on peut appeler ça parfois de l'urbanisme tactique, etc. En tout cas, tout ce qui fait que, avant de prendre des décisions, de faire des travaux, on teste les solutions avec les gens. On s'appuie sur la vision des gens. Ce sont des critères de réussite de la mise en œuvre opérationnelle. Donc c'est fondamental, c'est absolument fondamental. Les cours d'école, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je trouve que c'est un magnifique exemple.
Il y a plein d'exemples.
Il se trouve que je suis à l'origine, dans une vie professionnelle précédente, des cours résilientes Oasis de la ville de Paris. Donc on pourra en parler, monsieur, si vous voulez, tout à l'heure. C'est un très bon support, mais ça marche aussi sur l'espace public, ça marche dans un bâtiment, ça marche à peu près partout. Et c'est la logique inclusive de la ville durable, qui est un pilier absolu, c'est-à-dire il faut faire avec les gens, sinon ça ne peut pas marcher. Donc je voulais vraiment
vous êtes d'accord tous les deux
sur cet aspect.
Voilà, c'est très bien. Au moins vous êtes complémentaires.
Ça fait oui, mais juste aussi pour rebondir. Tout à l'heure on parlait d'experts.
Je vais vous laisser.
C'est bien l'expertise qui apporte la technique et puis les usagers qui apportent la pratique.
Exactement.
Et c'est bien la conjonction des deux qui fera que, en intelligence collective, on dépassera les freins et les contraintes actuelles.
Vous êtes sur RCF ce matin et jusqu'à 11h, on participe à l'invention de la ville écologique de demain avec nos deux invités, puis bien sûr avec vos témoignages. On vous attendait maintenant au 04 72 38 20 23. Dites-nous à quoi pourrait ressembler votre ville du futur. Est-ce que vous connaissez des associations, comme celle d'ailleurs qu'on présente ce matin, qui permettent d'imaginer cette ville de demain à travers des échanges, des discussions, même des ateliers? 04 72 38 20 23 et puis par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et avec deux invités, je le disais, Sébastien Maire, vous êtes le délégué général de l'association France Ville Durable. Jean-Bernard Dufrien, vous êtes administrateur pour l'association Robin des Villes. C'est important également pour Robin des Villes de donner la possibilité aux habitants de discuter avec des élus, avec des techniciens. Des experts, hein, comme on l'a dit tout à l'heure.
Tout à fait, oui, mais c'est tout l'enjeu d'ailleurs, parce que si c'est pour discuter entre nous, à un moment ou à un autre, on va soit vite tomber d'accord ou soit pas du tout d'accord, mais on fera pas avancer les choses. Et là, je parle d'exemples concrets. Alors effectivement, plutôt avec un jeune public, mais dans les ateliers, là, je prendrai à Saint-Fond, nous avions toute une série d'ateliers initiés avec une école, et ça débouchait sur des ateliers concrets. On imagine la ville de demain, et il y a dans une salle de la mairie d'ailleurs, dans la salle du conseil, il y avait les élus, les techniciens, les élèves, qui sur 5-6 tables imaginaient leur ville de demain. Et donc là, il y a eu un échange avec les élus, les techniciens et les élèves. Et c'est là où il peut se passer quelque chose. Mm. Si on est chacun dans son couloir, on risque pas de décloisonner.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils imaginent très concrètement? Est-ce que vous avez des exemples comme on parlait des cours d'école tout à l'heure?
Alors, sur les cours d'école, là, on a un gros travail. Et effectivement, dans tous les phasages de l'atelier, hein, pour déboucher sur quand même un projet concret, on leur laisse libre cours à ce qu'on appelle la cour d'école utopique. Donc ils imaginent ce qu'ils veulent, ils ont libre cours et justement on leur donne cette possibilité-là. Alors là, naturellement, on peut tout imaginer pour les enfants. Mmh. Ils peuvent tout imaginer, mais c'est intéressant parce qu'il y a des choses qu'on pensait qu'ils pourraient être délirantes ou des rêves d'enfants. Mais oui, ils ont des rêves, mais des fois ils sont concrets. Et juste pour montrer l'articulation, après, on a quelque chose qui s'appelle un jeu, qui s'appelle briseur de rêve, et qui justement confronte après avec la réalité des techniciens et aussi des contraintes financières et d'espace. Mais on s'aperçoit que c'est cette conjonction des deux qui fait que on imagine maintenant, puis on le voit parce que les réalisations se font concrètement, parce que ça enchaîne très vite avant ces phases-là, c'est juste avant les travaux. Et il y a les choses que les enfants auraient pu rêver, des endroits un peu tranquilles pour se reposer sous un arbre. J'en sais rien, chaque cours a sa particularité, mais au bout du compte, se réalise pour obtenir un équilibre entre tous les acteurs d'une cour d'école. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a, mine de rien, ce ne sont pas que des enfants, il y a aussi des tensions, il y a aussi des jeux, il y a aussi des interactions qui sont plus ou moins des fois compliquées.
Vous avez d'autres exemples sur ce qu'on peut, sur ce qu'ils imaginent, alors que ce soit les élèves d'ailleurs ou lors de ces ateliers, hein.
On a
peut-être les parcs, les voies.
Tous ces jeux de la ville de demain. Mm. Effectivement, hein, c'est de pouvoir relier un endroit à un autre. Alors, on appelle ça la mobilité dans notre jargon. Eux, ils disent, moi, je vais aller en vélo, à pied, sans être obligé de faire attention à traverser une rue, à faire attention à d'autres personnes qui pourraient me mettre en danger. Il y a des rêves tout simples, hein, de nature, pas forcément des jeux tout fabriqués, mais des espaces naturels. Je dirais, on est souvent dans des choses tout à fait simples qui sont à nos portées de réaliser.
Sébastien Maire, vous confirmez des choses très simples?
Oui, bien sûr. Et il faut toujours d'ailleurs partir des choses du quotidien. Hein. Je ne suis pas absolument convaincu. C'est-à-dire la transformation, elle marchera si on la fait partout. Ce qu'on a fait depuis 20 ans avec les logiques de développement durable, c'était 2-3 projets un peu phares, un peu communicants, où on coupe le ruban et ça fait un bel article dans le journal. Ouais. L'école écolo, le bâtiment écolo, etc. Ça marche pas. Ce qui marche, c'est quand on introduit cette logique de transition écologique comme un cadre logique de tout ce qu'on fait. Pas comme une des sous-rubriques. Donc ça implique des évolutions fortes de gouvernance, de fonctionnement des collectivités, des organisations publiques comme privées, etc. Mais il y a un autre élément qui est fondamental dans ce que vous évoquez et qui me semble être vraiment le levier principal. La vision du futur. Mais dans quel paradigme? Dans quel cadre logique? Le plus gros problème qu'on a aujourd'hui pour engager des démarches ambitieuses de transformation des territoires, c'est que la majorité des acteurs a une vision fausse de ce que sera le futur. Notamment parce qu'il y a une notion qui a fait son apparition récemment dans les débats scientifiques un peu larges, mais depuis bien plus longtemps chez les scientifiques, c'est les logiques de limites physiques de la planète, qui sont différentes hein, des objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable, ils sont dans une logique qu'on va pouvoir se développer ad vitam. Sauf que on peut pas se développer ad vitam parce que on se développe en utilisant des ressources qui elles sont finies. Mais ça change complètement la vision du futur. Et on est aujourd'hui dans une époque un peu compliquée, difficile justement pour arriver à faire société dans une démarche globale de transformation. C'est que rarement dans l'histoire de notre société ont coexisté des visions aussi différentes de ce que sera le futur à court terme. On a encore toute une catégorie de la population qui reste persuadée que la vision du futur sera celle qu'on m'a présentée depuis que je suis enfant, c'est-à-dire les voitures volantes, la technologie partout, etc. Or, c'est la cause du problème, donc une cause très forte du problème. Donc, on ne peut pas envisager un futur basé sur l'ultra-technologie, parce que c'est l'ultra-technologie qui crée le problème climatique. Mais ça, c'est extrêmement difficile à faire passer comme message. C'est-à-dire qu'un certain nombre... On parlait de la mobilité à l'instant.
Oui.
Mais aujourd'hui, le maître mot qui va s'inspirer, qui devrait guider toutes les démarches de transformation, c'est d'ailleurs le premier pilier du manifeste de France Ville Durable, c'est la sobriété. C'est-à-dire après des années où on a considéré que la vision de la ville durable de demain, c'était la même vie qu'aujourd'hui, où on continuait de se déplacer plus, mieux, plus confortable, de consommer plus, mais tout ça de manière verte ou de manière écologique, ça ne tient pas. Et donc, il faut envisager un futur plus réaliste. La ville durable de demain, ce n'est pas la même ville qu'aujourd'hui, verdie. Ça, c'est ce qu'on a cru depuis 20 ans, notamment avec des logiques de smart city, etc. C'est une autre vision plus réaliste du futur. Sur, par exemple, vous voyez, l'ADEME, qui est un des grands opérateurs de l'État, a travaillé sur un nouveau chapitre dans sa stratégie de mobilité, hyper intéressant, un titre qui s'appelle « Objectif de démobilité ». Ça change de paradigme. C'est-à-dire que pour être vertueux vis-à-vis de la ville durable, parfois il vaut mieux ne pas faire que faire vert. Parce que faire vert, ça consomme des ressources, de l'énergie, ça a des externalités négatives, etc. etc. Donc c'est un vrai changement de vision du futur. Et pour redéfinir collectivement une vision plus réaliste du futur, on a absolument besoin des démarches comme celles qui sont conduites par Robin Desvilles et qui sont des démarches qui impliquent la population dans une prise de conscience des enjeux pour redéfinir une vision plus réaliste du futur.
Jean-Bernard Dufrien, il y a un gros chantier quand même de prise de conscience de la population. Ah, c'est énorme.
On est juste pour revenir sur ce qu'on vient de dire.
C'est plein de choses intéressantes.
Je repars des enfants parce que c'est quand même demain eux qui vont habiter la ville. Comme tout à l'heure, vous me demandiez quels sont leurs rêves. Mais leurs rêves, quand on leur fait placer la ville et tout ça, puis à un moment, on est là, on dit « Et alors, les gens, ils vont travailler où ?»«
Chez
eux. » Non, ça, c'est loin. Et de ce fait, on se retrouve confronté à ce qu'on dit. Ça veut dire faut penser à travailler près, parce que loin, ça veut dire quoi, des transports, des choses comme ça. Donc, c'est bien pour ça que entre des rêves de la ville de demain et les réalités, donc on est bien confronté. C'est pour ça que on travaille sur ces deux axes, c'est-à-dire faut bien mettre les acteurs ensemble. On a bien une vision rêvée de chaque habitant. Oui. Chaque habitant, ça veut dire moi je veux avoir mon petit coin de paradis juste en bas de chez moi, et en même temps des réalités sociales, économiques tout simplement, où il faut rassembler, reconfigurer les espaces, de vie au quotidien, c'est-à-dire aussi bien professionnel que de vie. Et il y a quand même un enjeu, là, c'est de les rapprocher, c'est très net, quoi, de dire qu'on va mettre des zones commerciales à 20 km des villes ou des zones industrielles à très éloignées de la ville.
Ça n'a plus de sens.
On est confronté. Alors, j'en sais rien si ça a du sens, ouais. Mais à l'heure actuelle, là, je rejoins ce que dit notre interlocuteur, c'est que c'est ça va être inviable. On va pousser donc les espaces de travail très loin, mobilité, voiture, voilà. C'est à repenser les choses différemment avec d'autres paradigmes. Comment? Eh ben, c'est à nous de l'inventer. Le défi, il est majeur, oui. Et je dirais, c'est à la fois la combinaison de nos visions techniques, urbanistiques, avec des exemples qu'on pourrait glaner à droite et à gauche. Et je dirais, mais là, je suivrais ce qui est dit, il faudrait aller beaucoup plus loin. Parce que ça va vite. Et les échéances à la fois climatiques et sociales, je parle social aussi, parce que les villes sont un formidable réservoir de micro-sociétés qui sont en plein mouvement. Et qu'il va falloir très vite trouver des solutions tout de suite, temporaire, et puis imaginer que la ville, elle évolue aussi. On a toujours pensé que la ville était finie, on posait des pions comme ça. Non, on est dans des villes qui sont en perpétuel mouvement et qu'il faut inventer au quotidien et régulièrement impossible qu'il soit vivable, tout simplement.
On a vu quand même une montée des verts en France, chez les maires, hein, bien sûr. Les écologistes, alors les versions divergent, comme toujours. Est-ce que c'est quand même un signe que la population, hein, notamment dans les grandes villes, hein, a envie que ça bouge, qu'on verdisse un petit peu tout ça, ou comme l'a dit Sébastien Maire, c'est un avenir un peu faux?
Hein, toujours pareil, je vais reprendre des exemples concrets.
Oui.
Ça veut dire,
ah ben oui, on est là pour ça.
Oui, voilà. Non, mais ça veut dire que, par exemple, les cours d'école. Donc on les transforme. On évite qu'une cour d'école soit qu'un terrain de foot et puis que les filles d'un côté soient sous les
la marelle.
Ou ça. Donc il y a ça. La végétalisation des cours d'école. Non, pour vous dire l'évolution. Alors j'en sais rien, mais c'est vrai que quand on dit on a une cour d'école qui est un lieu public, juste comme ça sur Lyon, la surface des cours d'école, elle représente trois fois les surfaces de jardins publics. Et pourtant, elles sont utilisées très peu de temps. Qu'est-ce qui est en train de se penser à l'heure actuelle? La cour d'école, elle va être connectée à la ville directement. Ça veut dire à un espace public pour pouvoir profiter de cet espace qu'on végétalise. À l'heure actuelle, on a besoin de ça pour les îlots de fraîcheur. On a besoin de ça pour avoir un lieu social qui soit pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour les habitants. Et à l'heure actuelle, j'en sais rien, mais c'est vrai que quand avec des élus, on dit il faut déconnecter, il faut reconnecter la cour d'école à la ville, ça veut dire faire sauter les barrières physiques qui empêchent qu'il y ait une mixité qui puisse se faire. Quand je dis mixité sociale, végétale et tout, oui, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, c'est des choses qu'on peut penser. Je donne un exemple comme ça. Après, c'est l'avenir qui dit qu'il faut avancer. Mais c'est vrai que je vois la métropole de Lyon et la ville de Lyon. Mais des fois, on a l'impression qu'on va pas assez vite même. On devrait aller plus vite. Mais la ville a aussi une formidable, inertie de fait, quoi, sociale, qui est pas évidente à bouger. Quoi.
Et sur l'installation massive des comment ça s'appelle? J'ai perdu mon terme. C'était les voies pour vélo, les pistes cyclables, quitte à boucher la circulation. Est-ce que c'est cohérent ou c'est incohérent? Il y a des décisions aussi, Sébastien Maire, si vous voulez réagir, bien sûr, qui peuvent paraître quand même incohérentes sur cette volonté. Vous l'avez dit, de verdir, de donner des signes qu'on a envie de verdir la ville. Et finalement, il y a une espèce de paradoxe entre les décisions et puis ce qui est appliqué.
En fait, tout dépend dans quel cadre logique on situe sa réflexion. Et je vais prendre votre exemple sur les pistes cyclables par rapport à ce que je disais sur les limites de la planète.
Ouais.
Dans un paradigme qui est, on a un accès infini à l'énergie, aux matières premières, et de toute façon, on peut construire des voitures toujours plus grosses, etc. Évidemment, pourquoi s'embêter avec des vélos, etc., puisqu'on peut être confortablement, sans effort, dans des voitures. Mais ça, c'est un paradigme faux, qui n'est pas celui qui est la réalité physique. En fait, on aurait vraiment besoin de cours accélérés de sciences physiques pour les décideurs et les décideuses, puisque de toute façon, l'accès aux ressources, qu'il s'agisse des matières premières ou de l'énergie, va être, et il est déjà contraint, il va l'être de plus en plus. Donc on n'aura plus cet accès-là. C'était un leurre pendant 200 ans, mais on n'aura plus cet accès-là. Donc ce qui peut paraître complètement aberrant, une fois qu'on pense aux limites physiques de la planète, c'est d'utiliser toute cette énergie pour déplacer une tonne de ferraille pour aller d'un endroit à l'autre. Si un extraterrestre venait et regardait, il dirait mais vous rendez compte, pour déplacer une personne tous les jours, on déplace 1,5 tonne de matériaux, donc toute l'énergie qui est nécessaire pour déplacer ces matériaux avant même de déplacer les 80 kilos ou les 60 kilos de la personne qui est dedans. L'énergie nécessaire pour déplacer un véhicule, c'est pour déplacer le véhicule lui-même, c'est pas pour déplacer la personne qui est dedans, parce qu'en termes de poids, évidemment, c'est peanuts à côté du poids du véhicule. Et on a des véhicules qui n'ont censé cesser d'augmenter en poids. Donc ce qui paraîtrait totalement aberrant, c'est de pas utiliser un vélo pour faire 2 km, et d'utiliser un véhicule plein de métal, de fer, qui produit plein d'externalités négatives, etc. Sauf qu'on n'a pas été habitué à penser comme ça. Parce qu'on nous a, on a été habitué au fait que tout ça c'était exponentiel et que de toute façon on y avait accès pour toujours. Mais c'est là qu'il est important de faire marche arrière. Et là on se dira, bah, peut-être que finalement, si on raisonne réalité de la disponibilité des ressources, par exemple sur les pistes cyclables, bah, la meilleure voiture électrique, c'est un vélo électrique avec une boîte autour. Hein. C'est pas un SUV électrique hybride. Hein. Parce que là, en termes de consommation d'énergie, non plus. Donc, évidemment, on doit adapter nos villes, notamment en créant les infrastructures de transport qui permettent à des enfants de pouvoir circuler à vélo sans risque, ce qui est encore loin d'être le cas dans la plupart des villes. Ouais. C'est juste naturel, normal, ça a plein d'effets positifs pour la santé, pour la pollution de l'air, pour l'obésité, pour la convivialité, pour etc., etc. Ça coûte beaucoup moins cher aux collectivités et aux impôts des contribuables que tout un tas de transports lourds ou d'infrastructures lourdes qu'on avait jusque-là. Puis évidemment, les villes, dans les villes, la voiture n'a plus rien à faire. Donc on est de toute façon sur quelque chose qui va s'imposer, ne serait-ce que par la volonté des habitants qui veulent plus, mettre leurs enfants en danger à cause de ces choix de mobilité des années passées. Hein, la pollution de l'air aujourd'hui, ça tue beaucoup plus que le coronavirus. C'est terrible, mais c'est on est en temps cumulé, hein, en temps cumulé depuis la pollution de l'air est un drame sanitaire à l'échelle française et à l'échelle mondiale. Donc il est temps de prendre des bonnes mesures et par exemple le développement des voies cyclables évidemment va dans ce sens.
Vous voulez réagir,
Jean-Bernard ? Oui, tout à fait. Alors là, je parle en tant que citoyen, hein, parce que Romain Desvilles, on n'est pas encore sur le champ de la mobilité.
Oui,
il y a
oui.
aussi des... Mais en tant que citoyen, je crois, parce que vous me parlez la métropole de Lyon et avec les élus verts, moi je dirais que pour utiliser le vélo régulièrement, mais on est encore en deçà. Ça veut dire que les pistes cyclables, à l'heure actuelle, elles commencent à être saturées à certaines heures.
De vélo ?
Oui, de vélo. Ouais. Ça veut dire que la crise, ouais, effectivement...
Il y a les scooters aussi.
Oui, mais elle a donné un formidable coup d'accélérateur sur la mobilité à vélo. Et en circulant dans Lyon, parce qu'on circule assez facilement, il y a plein de pistes cyclables qui étaient juste réservées pendant le confinement et qui se transforment maintenant. Mais je dirais, vu la circulation qui est faite, et là je vais un peu dans votre sens, c'est que on est encore en deçà. Il va falloir massivement faire des voies sécurisées en vélo, parce qu'il y a encore des points noirs. Quoi, il y a beaucoup de points noirs, bien sûr. Mais voilà, la réflexion que je me faisais là avec les beaux jours, en circulant en vélo, il y a des fois, on est à la limite de la saturation sur des pistes cyclables qui se resserrent parce que carrefour, parce que empiétement d'immeubles et tout.
Oui, des bouchons.
Des bouchons, oui, voilà. Et effectivement, quand on s'aperçoit que on va facilement à 20 km autour de Grenoble, de Lyon en vélo, ça prend pas tellement plus de temps qu'en véhicule. Il faut reconsidérer effectivement les mobilités d'une manière plus soft que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Mais là, vous parlez de la ville de Lyon, puisque vous êtes lyonnais. J'aimerais bien que des Parisiens, des Parisiennes nous appellent aussi pour leur donner leur point de vue, notamment sur ces pistes cyclables. En tout cas, comment imaginez-vous la ville de demain ? Comment participez-vous à l'imagination de cette ville de demain ? L'invention de la ville écologique ? On attend tous vos témoignages au 04 72 38 20 23. Et c'est Catherine qui décroche vos appels. Vous pouvez également nous laisser vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook. Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
La matinale RCF, Simon Marty.
Ce mardi, quels sont les bienfaits d'une écologie intégrale pour bâtir une société plus fraternelle et durable ? Une écologie apaisée et apaisante qui ne se limite pas aux aspects environnementaux ? On en parlera avec notre grand invité, Éric de Kermel, voix familière de la matinale. Il publie « Les jardins de Zagraland », un livre passionnant qui parle au cœur et à l'esprit. Rendez-vous avec notre grand invité ce mardi à 8h10.
Allez, 10h35 sur RCF, on va se retrouver dans un instant avec nos deux invités, Sébastien Maire et Jean-Bernard Dufrien, pour inventer la ville écologique de demain. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. On vous attend.
Ce matin-là, par erreur, je m'étais levé trop tôt. Mon cœur, c'est un vieux moteur, si tu soulèves le capot. Jamais se toucher. Ton col Claudine, ta sucette et cette impression, t'avais déjà volé, volé. Aucun, même pas maquillé. T'es belle comme une voiture volée. T'es la balle qui m'a fait tomber. T'es belle comme une voiture volée. Si j'avais su, je t'aurais parlé. Ce matin-là, dans le ciel, il y avait des nuages obscènes. Les gens avaient l'air de hyènes en regardant ma pauvre dégaine. Puis je t'ai vu embrasser ce barbu qui avait l'apparence du parfait trader. Il n'en voulait qu'à ton cul, quant à moi, je n'en voulais qu'à ton cœur. Aucun, même pas maquillé, t'es belle comme une voiture volée. T'es la balle qui m'a fait tomber, t'es belle comme une voiture volée. Si tu savais. T'es toute ma vie, que t'es mon soleil, mon rubis, que moi je suis facile, que je m'allonge tranquille, que je suis soumis, que t'es toute ma mort. J'avais rencontré avant, oh, quand j'étais jeune et charmant, charmant. Aucun, et même pas maquillé, t'es belle comme une voiture volée. T'es la balle qui m'a fait tomber, t'es belle comme une voiture volée. Si j'avais su, je t'aurais parlé. Si je t'avais rencontré avant, quand j'étais jeune et charmant, charmant. Si je t'avais rencontré avant.
Benjamin Biolay pour vous accompagner en ce lundi matin, extrait de son dernier album, Comme une voiture volée.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours en direct avec nos deux invités qui nous font le plaisir de nous accompagner jusqu'à 11h. Sébastien Maire, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association France Ville Durable. Jean-Bernard Dufrien, vous êtes administrateur pour l'association Robin des Villes. Et on va accueillir tout de suite Jean-Louis qui habite à Montpellier, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour. Je souhaitais vous appeler parce qu'en fait j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que je suis à mon cinquième tour de la Terre à vélo. Et c'est pas en faisant des circuits internationaux que j'ai fait ça, c'est uniquement avec mes déplacements urbains au travail. J'ai 73 ans maintenant, je suis à la retraite, mais pendant toute ma vie professionnelle, je me suis déplacé à mon travail en vélo. 20 km par jour, 100 km par semaine. Ça fait 4 fois le tour de la Terre et j'en suis à mon cinquième. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant qu'ancien élu local, je trouve que les politiques locales ne sont pas suffisamment n'ont pas été jusqu'à maintenant suffisamment ambitieuses, elles commencent à l'être, en matière justement de développement de pistes cyclables, mais pas que. Et pour tout vous dire, quand j'étais élu local, je discutais avec mon maire une fois en lui disant qu'on ne développait pas assez les pistes cyclables. Et il m'avait répondu, qu'est-ce que tu veux Jean-Louis ? Il n'y a pas assez de cyclistes pour développer les pistes cyclables. Et je lui avais répondu, le propre d'un politique, c'est justement d'initier de nouveaux comportements. Et je trouve que jusqu'à maintenant, les hommes politiques ont été dans une attitude de suiveur et non pas d'initiateur. Et je pense que là-dessus, nos politiques publiques doivent être beaucoup plus ambitieuses que ce qu'elles le sont actuellement. Mais... il faut du courage politique.
Mmh. Voilà. Oui, faut du courage chez, dans... il faut du courage chez les politiques.
Pour ouais. justement mettre en place des programmes. Quand vous parliez tout à l'heure de végétaliser les cours d'école, développer les pistes cyclables, il y a... beaucoup d'actions locales qui peuvent être prises par les municipalités et qui doivent être encouragées. Et il faut, pour cela, du courage politique. Mmh. Parce qu'on est, et puis on est pris aussi dans une culture, vous en avez parlé tout à l'heure, dans une culture qui nous conditionne dans certains types de comportements. Mmh. Je peux vous garantir que si à 73 ans, je pète la forme, c'est parce que justement, j'ai eu ce type de comportement qui m'a fait du bien à moi et qui a fait du bien à la planète.
Merci Jean-Louis, on vous laisse retourner sur votre vélo. Merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Sébastien Maire, une réaction ? Ce sont aux politiques d'être un peu plus courageux, courageuse ?
Mais ça c'est... bon en fait... c'était pas le thème de l'émission,
non,
mais on pourrait
tout.
Discuter du rôle de la démocratie. C'est vrai, c'est une question qui est souvent posée sur ces dynamiques de transformation.
Je trouve que c'est complémentaire.
Le rôle de l'élu local, est-ce que c'est d'abord de représenter l'avis majoritaire de la population, même s'il va dans le mauvais sens, ou c'est de guider, de montrer le chemin, d'avoir, comme disait monsieur, du courage politique pour peut-être oser engager le territoire dans une démarche qui est pas forcément populaire au niveau majoritaire. C'est une grande question, et je comprends qu'aujourd'hui, plein d'élus se la posent, hein, en disant « mais moi, j'ai été élu sur la volonté de la majorité de la population, et je vais pas faire autre chose que ce que souhaite la population. » Si la population est pas prête à monter sur un vélo, on peut comprendre qu'un élu dise « mais moi, je vais pas aller contre l'avis de ma population. » Donc, on en revient à ce qu'on dit depuis le début, et notamment avec Robin Desville. Il n'y a pas de démarche de transformation qui puisse tenir sans les habitantes et les habitants. Il faut faire avec. Il faut, y compris la logique de, je trouve, de paradigme que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a un magnifique exemple là qu'on a vécu, c'est la Convention citoyenne sur le climat. Enfin, on voit que quand des habitants lambda, et c'est pas péjoratif, hein, des habitants venant de tout milieu, de tous âges, de tous endroits, bénéficient d'une formation accélérée aux vrais enjeux, parce que c'est ça qui s'est passé, hein, avec les 150 de la Convention. Ils ont eu cette chance incroyable d'avoir, très resserrée, une formation en pouvant auditionner les meilleurs experts, les scientifiques, et des différents points de vue. Les propositions qui sont sorties vont exactement dans le bon sens, mais elles ont heurté une grande partie de la population, des décideurs et même des acteurs de la ville durable. Pourquoi ? Parce que les propositions tournaient principalement autour de la sobriété. La sobriété foncière, la sobriété dans la consommation, la sobriété dans les déplacements, la sobriété dans le travail, etc., etc. Et ça, notre société est pas habituée. Notre société y arrive pas. Ah non, on est dans une logique de croissance, de développement, de plus... C'est le cœur du problème climatique, ça. Donc, il va falloir qu'on change de point de vue et considérer que la sobriété peut être un magnifique levier de gestion et de développement, entre guillemets, de nos territoires. Mais pour ça, il faut que les habitantes et les habitants soient conscients des enjeux. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui.
Il y a tout un travail.
Hein, on sait que les médias, je parle pas de votre média à vous, mais en général, la preuve, hein, c'est qu'on est en train d'en parler.
Oui.
Il y a eu des rapports récents qui ont montré que le sujet climatique est abordé moins de 3% du temps par les médias en général, alors même qu'il est complètement central et qui va déterminer tout simplement la capacité de survie de la génération de ma fille qui a 5 ans quand elle arrivera au troisième âge ou au quatrième âge. Donc c'est de ça dont on parle. Ça devrait occuper beaucoup plus de place dans les débats citoyens, dans les discussions au bistrot quand on pourra les rouvrir, ou etc. On n'y est pas encore parce qu'aujourd'hui notamment on a un fonctionnement économique basé sur la publicité qui fait que on peut pas à la fois dire il faut beaucoup moins consommer et puis encourager à la consommation juste avant et juste après.
Juste pour clore la parenthèse vélo, on en parlera la semaine prochaine, lundi 3 mai. Le vélo peut-il changer le monde? Là aussi, c'est toute une question. Jean-Bernard Dufrien. Enfin, excusez-moi, j'allais vous appeler Romain Desvilles, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est un jeu de mots, Romain Desvilles, Robin des Bois.
Souvent, on se trompe, on dit ouais. Robin des... Oui,
c'est ça, ça part de ça.
Oui, ça part de ça. C'est l'idée unique, tout simplement, c'est de partager l'espace avec tous les acteurs. C'est là d'où vient le mot Robin. Ouais. Voilà.
Vous voulez réagir?
Oui, non, mais juste pour dire que ce qu'on disait tout à l'heure à l'intermède, c'est que c'est vrai que si on va vers l'affrontement juste pour ce vélo, mais effectivement, oui. C'est pas le, mais on lâche pour tout, on va prendre cette
étape. Bien sûr.
Parce qu'on était dessus,
ça
mais
fait partie
si on fait affronter les automobilistes qui font 3 km pour aller chercher leur pain face au vélo pour aller à leur travail, non, j'exagère là, mais si on les fait affronter, ça va être stérile. Ce qu'il faut, c'est arriver à se parler. Mmh. Et effectivement, derrière, c'est bien une convergence entre des gens qui se parlent, et puis une décision politique in fine quand même, oui. Parce qu'il y a quand même, au même titre qu'on a dit qu'il fallait un développement industriel pour pouvoir nourrir tout le monde, il va falloir faire un développement durable maintenant pour pouvoir nourrir tout le monde. Je veux dire, les décisions qui ont été prises, comme le disait M. Maire, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises à l'heure actuelle, il suffit juste de... On a bien décidé de construire ce qu'on a construit, quoi, les autoroutes et tout ça. Bah, maintenant, pour pouvoir survivre, il va falloir voir les choses différemment. Donc, il y a bien une conjonction entre ce que peuvent supporter les usagers, les habitants et la volonté politique.
Beaucoup de réactions, de témoignages sur l'invention de la ville de demain. Après Jean-Louis, c'est Jean-Pierre qui nous appelle de Bordeaux au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue, on vous écoute.
Je vous ai entendu là. Pour moi, la population humaine, parce que j'ai entendu tout à l'heure passer de 7 milliards et demi à 10 milliards. Et ben, en fait, il faudrait déjà dans un premier temps faire en sorte que la population humaine passe de 7 milliards et demi à 5 milliards. Et moi, ça fait une dizaine d'années, sinon une quinzaine d'années, que je proposais que toute femme arrive à 60 ans en Occident. À 60 ans, sans enfant, n'ayant pas enfanté, touche un chèque de 200 000 euros. Et toute femme hors Occident touche un de 50 000. Mais là, il y a la Covid. Les humains ne sont pas des insectes. Puisque c'est une radio chrétienne, dominer la Terre, peupler la Terre et dominer l'art. Et bien, en fait, si on regarde le début de la Genèse, et quel que soit le temps qu'elle a, cette Genèse, que ce soit 5000 ans ou plus, il y avait 2 milliards et demi de personnes en 1950, il y en avait moins avant. Et ben pour moi, les humains ont peuplé la Terre, et là ils sont en train de se conduire comme des insectes, des rats ou des abeilles, des fourmis. On n'est pas une termitière, et en ne respectant rien.
Merci Jean-Pierre. Ce qu'on entend dans votre témoignage, c'est peut-être la surpopulation dans les villes. C'est ce que je vais retenir en moins de ce témoignage. Vous en pensez quoi, Sébastien Maire? Est-ce que là aussi, il y a peut-être trop de personnes dans les villes? Alors c'est un peu compliqué de dire ça. Est-ce qu'il sur les logements aussi, on imagine. Oui.
Alors bon, déjà d'une manière générale, c'est très difficile de déconnecter les villes du reste. Et il y a dans cette logique holistique que j'évoquais peut-être tout à l'heure, c'est vraiment reconsidérer la ville dans son territoire au sens large, local, plus large, etc. Donc la question de la surpopulation, elle est réelle, mais il n'y a pas besoin d'arriver à 10 milliards. C'est-à-dire que déjà là, à 7 milliards, ça ne tient pas. Avec notre mode de vie actuel, vous le savez, c'est ce fameux jour du dépassement, qui est un moment un peu médiatique.
Peur, hein.
Chaque année, on dit tiens, là, on est en mars, on a déjà épuisé plus de ressources que, et puis tant pis, puis dès le lendemain, on repart en business as usual, à consommer. Donc de toute façon, à 7 milliards, vivant comme un Français ou une Française, aujourd'hui, c'est impossible, ça ne tient pas. Donc il y a même pas besoin d'aller jusqu'à 10 milliards. Néanmoins, la planète, et il y a eu des rapports récents qui ont montré ça, qui étaient très intéressants, a largement assez de ressources pour faire vivre 10 milliards de personnes. Mais dans une vie radicalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Je reviens à cette logique de qu'est-ce que le confort, qu'est-ce que la technologie, mais on a assez de ressources pour faire vivre correctement 10 milliards d'habitants sur la planète. Pas du tout dans la façon dont on vit aujourd'hui, c'est sûr. Mais on peut le faire.
Mais il va y avoir... Pardon, je perds mes mots. il va être nécessaire quand même de prendre conscience globalement, mondialement, qu'il y a un problème. Quand on voit qu'au Qatar, ils climatisent des stades, ça donne pas envie de faire des efforts quand même. Il y a quand même.
On est complètement dans le contre-exemple de ce qu'il faut faire, c'est sûr. On est dans le contre-exemple et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contre-exemples que d'exemples. Mais c'est en train de bouger. C'est vraiment en train de bouger. C'est ça qu'on fait avec notre association notamment. C'est qu'il y a énormément de choses positives qui sont sorties de terre. Il y a des pratiques vertueuses. Il y a des ZAC et des éco-quartiers qui ont été construits en respectant ce que j'évoquais tout à l'heure sur les limites planétaires. Il y a eu tout un tas de programmes portés parfois par des collectivités, parfois par l'État, parfois par des acteurs économiques qui marchent et qui ont fonctionné. Et donc la logique maintenant, c'est de se dire qu'il faut accélérer. Il faut accélérer ce qui marche. Donc certes, il faut qu'on continue à innover, on aura toujours besoin d'innovation, mais aujourd'hui, il y a quand même une logique qui est l'innovation dans l'esprit général, c'est forcément de la technologie, des choses nouvelles, etc. Non, on doit innover socialement, par exemple, avec des démarches qui impliquent davantage les habitantes et les habitants dans la définition des projets. On doit innover en organisation, en processus, etc. Et pas forcément en technologie. Alors, si, dans la santé, dans des secteurs absolument prioritaires, pourquoi pas, mais dans des secteurs dits non prioritaires ou superflus, doit-on continuer à investir des ressources, de l'énergie, etc. Mais en tout cas, il y a une chose importante, c'est que aujourd'hui, la plupart des solutions sont connues. On n'a pas à les inventer, les solutions. Il faut les mettre en œuvre.
Voilà. Dans un instant, nous rejoindra depuis Voiron Ingeborg qui patiente au 04 72 38 20 23. Mais pour l'heure, vous le savez, chaque matin dans cette émission, je pense, donc j'agis, on se met en mouvement, en action autour de belles initiatives. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite avec notre chroniqueuse. Et nous retrouvons Juliette Moyer de RCF dans l'Allier. Bonjour Juliette.
Bonjour Melchior.
Vous nous parlez de marche-attaque et il ne s'agit pas de petits hommes verts avec des problèmes d'élocution.
Oui, non, Melchior, je sens très en forme. Question humour aujourd'hui, ça tombe bien.
Toujours.
Ça tombe bien, et oui, toujours. Alors vous parliez il y a quelques instants de la ville de demain avec vos invités. Eh bien moi, je vais vous parler de la ville d'aujourd'hui parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. Et si je vous parle de marchiens, ce ne sont pas ceux qui vont protester contre les robots persévérance, en vue, mais plutôt un trompe-l'œil. Alors je vais m'expliquer. Pourquoi un trompe-l'œil? Eh bien, il y a quelques jours, c'était entre jeudi et vendredi, les habitants du quartier du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris se sont réveillés avec une immense fracture sur un de leurs escaliers préférés. Alors attention, pas de vandalisme urbain, mais un message à faire passer, celui de l'accessibilité de l'espace public à tous. Alors je vous le rassure, c'était donc un trompe-l'œil, donc quelque chose d'artistique, car il faut dire qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10, selon un sondage de 2020 de l'Association des paralysés de France, disent ne pas pouvoir accéder là où elle souhaite en ville. Et pas besoin d'être en fauteuil pour ça, il suffit d'une jambe dans le plâtre, d'une difficulté à se mouvoir en vieillissant ou encore d'une poussette, et les parents qui m'écoutent sauront tout de suite de quoi je parle. Des escaliers trop hauts, des rampes d'accès inexistantes, des bancs publics supprimés, des pavés disjoints, des portes trop lourdes, je vais arrêter là la liste. Bref, vous l'aurez compris Melchior, ce trompe-l'œil d'une fracture d'un escalier est en fait la nouvelle campagne de sensibilisation lancée toute cette semaine à Paris et ailleurs en France par l'APF. Et ce sont donc des collectifs d'artistes qui déstructurent nos marches d'escalier, d'où ce fameux marche-attaque, pour mieux nous faire comprendre l'intérêt de structurer l'accessibilité dans nos villes et nos villages.
Et ce ne sont pas d'ailleurs les seules actions que souhaite mener l'Association des paralysés de France cette semaine, Juliette.
Eh bien non, je dirais même plus, c'est le branle-bas de combat dans les régions et à chaque jour sa thématique. Alors aujourd'hui, on parle de marche-attaque, bien sûr, mais demain, on évoquera l'accessibilité aux lieux de soins, question essentielle à l'heure de la Covid-19, avec parfois un petit sens de la provocation, comme dans les Hautes-Pyrénées, à Lannemezan, où une distribution de tracts stop aux gestes barrières aura lieu et évoquera avec humour le stationnement des voitures sans carte mobilité sur les places des personnes à mobilité réduite. Gros problème, et on le sait. Et puis mercredi, ce sera le tour des commerces, dont beaucoup ne se sont pas encore mis aux normes alors que la loi date de 2005. Jeudi, les transports et enfin vendredi, les lieux culturels, sportifs et de loisirs qu'on espère bien voir rouvrir sous peu.
Et où peut-on retrouver toutes ces informations, Juliette ?
Eh bien, il suffit de vous rendre sur le site de l'APF, Association des Paralysés de France, et vous trouverez tous les lieux et propositions de sensibilisation. Mais vous pouvez également vous engager en écrivant par exemple à votre député, en partageant la vidéo de l'APF sur les réseaux sociaux, en distribuant des flyers ou encore en faisant un don à l'APF. Car on ne le rappellera jamais assez, améliorer les structures de notre vie quotidienne pour les personnes en situation de handicap, eh bien, c'est tout simplement les améliorer pour notre bien-être à tous, et qu'on soit dans une vie d'aujourd'hui ou de demain, Melchior.
Grand merci Juliette Moyer pour cette belle initiative à réentendre sur notre site rcf.fr. La transition est toute faite pour parler de la ville inclusive. J'aimerais qu'on accueille Ingeborg qui patiente depuis quelques minutes. Ingeborg à Voiron. Bonjour Ingeborg.
Bonjour.
Bienvenue. On vous
merci.
Écoute.
Alors, moi, je voudrais rebondir un peu sur la sobriété en prenant l'aspect urbanisation. À mon avis, il faut une sobriété aussi dans l'urbanisation. Bon, dans ma ville, le plan local d'urbanisme est en révision. Moi-même, je suis dans des associations de protection de l'environnement.
Oui.
Et je vois que, d'une part, il y a des documents d'urbanisme comme le SCOT ou le plan local d'habitat qui préconise un certain nombre de logements à construire par année. Et puis d'autre part, il y a donc la disparition des champs, des vergers, des prairies, des zones naturelles ou agricoles, surtout agricoles, pour laisser place à cette urbanisation. Il y a maintenant le dispositif zéro artificialisation nette du sol qui est un peu en contradiction avec cette urbanisation. Et dans tout ça, bon, beaucoup de gens ne savent pas, mais urbaniser contribue énormément au réchauffement climatique et bien sûr à la perte de la biodiversité.
Merci donc, Ingeborg, pour votre témoignage. On arrive à la fin de cette émission. Sébastien Maire, une réaction peut-être rapide sur ce témoignage ?
Ben, c'est un magnifique exemple, hein. La sobriété foncière est un levier majeur d'adaptation par rapport aux enjeux. Un chiffre peut-être pour illustrer, hein. Depuis 20 ans, dans nos logiques de développement durable, on considérait que dans le domaine de la construction, c'était la construction neuve qu'il fallait rendre plus vertueuse. Donc on a fait beaucoup de progrès pour faire des bâtiments écolos, zéro énergie, etc., etc. Or, on considère par exemple dans une ville comme Paris que 80% des logements qui seront à Paris en 2050 et qui devront encaisser des canicules d'un mois à 50 degrés, ils sont déjà là. Donc les 20% qui restent quelque part, c'est anecdotique. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de rénover l'existant, c'est de maximiser tout ce qu'on a fait, aussi bien dans les transports que etc., etc. Et dès que peut-être pour conclure, parce que j'imagine que c'est mon dernier mot,
oui.
je voudrais vraiment, c'est pour les auditrices et les auditeurs qui sont intéressés par tout ce qu'on vient de raconter, l'association France Ville Durable a travaillé avec ses quatre collèges, l'État, les entreprises, les collectivités et les experts, pour essayer de redire en quatre pages ce qu'étaient les fondamentaux de cette ville de demain. Il y a un manifeste qui est en ligne, vous pouvez aller le voir, qui s'appuie sur ces quatre piliers qui sont la sobriété, la résilience, l'inclusion et la créativité. Et donc j'invite y compris des collectivités locales ou des entreprises qui seraient intéressées à nous contacter s'ils souhaitent nous rejoindre.
Merci beaucoup Sébastien Maire de nous avoir accompagné, délégué général de l'association France Ville Durable. On peut retrouver plus d'infos sur le site asso.francevilledurable.fr. Merci beaucoup Jean-Bernard Dufrien d'avoir été avec nous. On passe à l'action hein, maintenant, c'est parti.
Tout à fait.
Et on peut aller retrouver plus d'informations sur le site robindesvilles.org. Merci à Hugo, à Catherine et à Audrey qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Et je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir, entre 9h et 11h. Également dans le groupe Facebook que je vous invite à rejoindre. Je pense, donc j'agis. Passez une excellente journée, toujours et encore, avec RCF.